Chapitre 1. Un rêve d'Italie. Avril 1498. Le roi Charles VIII régnait sur la France. Ce monarque au physique ingrat, de petite stature et malingre de corps, ne manquait certes pas d'ambition et nourrissait, sous des dehors taciturnes, de grandioses projets. Il rêvait d'une épopée propre à attacher à son nom un peu de cette majesté qui lui faisait tant défaut, en dépit de sa naissance et de son titre. 4 ans plus tôt, ses désirs de gloire et de brillantes conquêtes l'avaient conduit, accompagné de la fine fleur de la chevalerie française, à se lancer dans la première des guerres d'Italie. Il s'agissait de contester la souveraineté des Aragonais sur les plus belles terres transalpines. Accueillis comme des libérateurs par les populations locales, les soldats de Charles avaient vu les villes s'offrir à leur approche, les unes après les autres, comme de tendres pucelles succombant à la couche nuptiale. Pavie, Florence et enfin Naples avaient jalonné cette joyeuse chevauchée qui s'était achevée en une piteuse retraite lorsque les Napolitains, alliés pour l'occasion aux Milanais, s'étaient avisés que leur prétendu sauveur avait fait main basse en quelques mois sur un véritable trésor et se comportait comme de vulgaires pillards. Ligués avec les Espagnols, les troupes italiennes avaient forcé l'armée du roi à évacuer Naples dans le plus grand désordre. Puis, par un astucieux mouvement tournant, elle lui avait barré la route des Alpes. Près de la ville de Fornoux, acculée sur les rives d'un fleuve en crue, 10 000 Français avaient dû faire face à près de 30 000 ennemis. Cela avait été un miracle si l'affaire n'avait pas tourné au désastre. Contraints d'abandonner derrière eux une bonne part de leur butin, les soldats de France étaient parvenus à forcer le passage. Encore Charles VIII n'avait-il évité que d'extrême justesse de tomber aux mains des Italiens. Coupé du gros de ses troupes, encerclé par un détachement de mercenaires albanais, le souverain n'avait dû son salut qu'à l'intervention d'une poignée de chevaliers menés par un jeune homme aussi intrépide qu'habile au maniement des armes. De cette aventure si peu glorieuse, Charles VIII avait ramené en Pays de Loire la nostalgie de ciels toujours bleus, le goût des jardins odorants et des palais alanguis sous le soleil. Depuis sa naissance, il avait toujours vécu à Amboise. À son retour, il avait voulu donner à sa ville et surtout à son château toute la splendeur qui convenait à un royal séjour. 2 maîtres maçons, Dominique de Cortone et Fra Giocondo, et un horticulteur napolitain, Pacello de Mercoriano, s'étaient chargés de concrétiser les désirs du monarque. Ce faisant, ces 3 hommes ignoraient qu'ils se posaient en annonciateurs d'un renouveau culturel et artistique sans précédent, lequel devait culminer sous les règnes des successeurs de Charles VIII et passer à la postérité sous le joli nom de Renaissance. Mais en ce lointain printemps de 1498, la succession n'était pas encore à l'ordre du jour et, sous le soleil pâleau d'un mois d'avril qui s'annonçait bien maussade, le château d'Amboise faisait grise mine. Seules les exclamations montant du pied de la tour des Minimes pouvaient, à la rigueur, conférer à l'endroit un vague air de fête. Il se disputait là, par volonté royale, un grand tournoi de paume afin de célébrer les Pâques fleuries et le retour de la belle saison. Quelques tréteaux avaient été installés près des fossés, sur une étendue herbeuse où se déroulait la compétition. Les appels des marchands d'oubli rivalisaient vainement avec les harangues des jongleurs et autres cracheurs de feu. Bien peu de spectateurs, en effet, avaient osé braver le ciel menaçant pour assister aux joutes d'une poignée de gentilshommes en chemise. Parmi ces derniers figuraient pourtant quelques-uns des plus prestigieux représentants de la noblesse française, et notamment le duc de Nemours et le comte de Lusignan, qui avaient accompagné le roi Charles en son aventure italienne. Ces 2 hommes comptaient parmi les plus habiles joueurs de paume du royaume, mais pour l'heure, ils semblaient se désintéresser du déroulement des parties. Se tenant légèrement en retrait de la lice, ils devisaient à voix basse.
« Savez-vous que le mystérieux hôte italien de notre monarque s'est lui aussi inscrit au tournoi ?»
questionnait Lusignan en épiant de son œil vif les réactions de son interlocuteur.
« Je l'ai vu s'entraîner ce matin. Il se montre plutôt adroit et prompt à se déplacer. nous aurons au moins un adversaire à la hauteur pour nous disputer la victoire.
Vous voulez parler de ce Giacomo Nuti ?
C'est cela même. Le connaissez-vous ?
Le duc de Nemours fit la moue. Avec sa haute silhouette nerveuse, son nez aquilin et ses lèvres minces, il faisait penser à un grand oiseau de proie, et il lui arrivait parfois d'en manifester la cruauté altière. J'ignorais jusqu'à son nom avant de lui être brièvement présenté à mon arrivée à Amboise. L'homme a des façons qui ne me plaisent guère. Je ne peux m'empêcher de lui trouver l'air fourbe et calculateur.
Je ne suis pas loin de partager vos sentiments à son égard. L'individu a tout de l'aventurier sans noblesse. Il semble cependant qu'il dispose de quelques puissants appuis dans l'entourage proche de notre souverain. J'ai appris de sources sûres que Charles lui avait déjà accordé la faveur d'une entrevue privée.
Lorsqu'il m'a été présenté, reprit le duc de Nemours, j'ai saisi l'occasion de l'interroger moi-même sur les raisons de sa présence à la cour. Il a habilement éludé chacune de mes questions. À l'en croire, il serait négociant et servirait d'intermédiaire entre le roi et plusieurs peintres de la péninsule. Mais je suis certain qu'il ment.
Vous n'avez pas cherché à le pousser dans ses retranchements pour l'amener à se livrer ?
Par la vertu Dieu, je n'en ai pas eu l'opportunité. Notre coquin a saisi le premier prétexte venu pour mettre fin à la conversation. Sa gêne était évidente. J'ai bien essayé d'en apprendre davantage auprès de Comines. Mais, comme à son habitude, le grand chambellan est resté muet comme une carpe. Le comte de Lusignan ne put retenir un sourire empreint de malice. Contrairement à son vis-à-vis, c'était un homme de petite taille, quelque peu enveloppé, mais néanmoins vigoureux. Sa barbiche aux reflets roux et son regard en perpétuel mouvement lui donnaient l'air d'un lutin facétieux.
« Eh bien, chuchota-t-il, en contenant mal une certaine jubilation. « Vous auriez pu faire meilleure chasse en choisissant mieux votre informateur. »«
Diantre, vous piquez au vif ma curiosité. Il suffit de voir votre mine réjouie pour comprendre que vous avez percé quelques secrets. Allons, ne me faites pas languir. Dites ce que vous savez. » »«
Ce Nuti a beau être d'une nature dissimulée,
il n'en reste pas moins homme. »
Il y a deux nuits, les filles du Cocardi, le Bordeaux de la rue des Étuves, ont bénéficié de sa galante compagnie. Le couvert lui a été servi, m'a-t-on dit, jusqu'à une heure fort avancée et par moult belles garces.
Notre gaillard se distingue donc en joutes de toutes sortes.
Mais j'avoue ne pas bien comprendre où vous voulez en venir.
Une certaine irritation perçait dans la voix du duc. Lusignan dut s'en apercevoir, car il décida de ne pas faire lanterner plus longtemps son illustre interlocuteur.
« Il est des hommes dont les fers du bourreau ne sauraient délier la langue, mais qui peuvent oublier toute prudence quand ils ont vidé quelques pichets de vin clairet et s'abandonnent à faire le fendant devant une femme, fût-elle simple catin. Ce Giacomo Nuti appartient à cette race. » Il n'a pas pu s'empêcher de comparer les filles du Cocardi aux belles de son pays. Une personne digne de foi, mais dont il est préférable ici de taire le nom, l'a entendu vanter ses prouesses amoureuses au lit des belles Milanaises.
Un natif de Milan ? Sursauta Nemours. Serait-il possible qu'il s'agisse d'un envoyé du Sforza ?
Compte tenu du mystère qui entoure sa présence à la cour, gageons que la chose tienne davantage de la certitude que de l'hypothèse.
Une ambassade secrète de Ludovic Sforza, le duc de Milan.
Mais alors, cela ne peut signifier qu'une chose.
Je pressens que vous en tirez les mêmes conclusions que moi, fit Lusignan en esquissant un large sourire. Notre souverain n'a pas renoncé à faire valoir les droits qu'il tient de sa grand-mère Marie d'Anjou sur le royaume de Naples. Mais son échec d'il y a 4 ans lui a servi de leçon. Cette fois, il cherche à nouer de solides alliances dans la péninsule avant de nous entraîner à nouveau par-delà les Alpes.
« Et la chose est bien telle que vous le dites, » prononça le duc en frottant les extrémités de ses doigts les unes contre les autres, comme l'aurait fait une mouche avec ses pattes. « Voilà un secret que d'aucuns seraient prêts à payer fort cher et qui mettrait en branle la moitié de l'Europe s'il venait à s'ébruiter. »